les quarts de finale.
Merci, Dan. Évidemment, on a beaucoup parlé de la légalisation de la marijuana parce que c'est le jour 1 de la vente libre et légale au Québec. Hier, on a parlé à un médecin qui n'était pas enthousiasmé par la légalisation du cannabis. Aujourd'hui, on va aller rejoindre un doc que vous connaissez bien, les auditeurs du FM 93, parce qu'il est sous nos ondes tous les matins. C'est le doc Mayhew. Bonjour, doc.
Oui, Eric, Jeff, Julie.
Et Dan est là même aussi, là, le doc.
Oui, Dan.
Bonjour, doc.
Doc Mayhew, je veux savoir, là, à titre de médecin, vous êtes médecin psychiatre. Vous, personnellement, est-ce que vous étiez depuis le début favorable ou défavorable à la légalisation du pot?
Ça fait 30 ans que j'appuie, je demande, je souhaite la légalisation du cannabis au Canada.
OK. Fait que vous êtes content aujourd'hui, vous, là?
Ben oui. C'est un grand jour. Bon. On vient de franchir un pas important. Bon.
Pourquoi? Parce que vous pensez que les effets du cannabis peuvent être thérapeutiques davantage que problématiques?
Bon, c'est un produit. Le chanvre indien est une plante indigène du Canada qui a été bannie par Mackenzie King, cette espèce de sauté libéral, en 1923.
OK.
Écoute, interdire une plante indigène, il faut le faire, là.
Il avait
réussi à faire ça, lui, Zigoto-là.
Parce qu'il disait que le monde en fumait trop?
Je sais pas. Non, écoute, les historiens n'auraient rien retrouvé. Alors, il a vu ça dans son urine un matin, puis il a décidé que plante-là n'existerait plus.
Parce qu'on l'utilise à d'autres fins que juste des fins de consommation humaine. Là, je sais qu'on faisait quoi? Des fois, une espèce de tissu avec ça. On peut faire.
Avant 1923, c'était une plante cultivée partout au Québec, avec laquelle on faisait des nappes, des napperons, des chiffons, des vêtements, des uniformes pour les militaires qui ont combattu à la Première Guerre mondiale.
Il y avait du pot sur le dos.
Écoute, le chanvre, c'est une plante extraordinaire. Et il y a 66 principes actifs dans le chanvre, dont le THC et le CBD les plus connus.
Okay.
Mais il y en a toute une série dont on ignore l'usage. Rappelez-vous l'if de Colombie-Britannique. C'est un conifère.
OK.
Écoute, il y a une quarantaine d'années, 50 ans, on a découvert que l'if contenait du tamoxifène.
C'est quoi ça?
Julie, ça te dit-tu quelque chose? Taxol, tamoxifène?
Oui.
Premier traitement pour le cancer du sein.
Ah oui?
Oui. Faudrait peut-être allumer, là.
Fait que c'est pas juste des effets néfastes. Mais pourtant, aujourd'hui, on entend beaucoup de médecins. Hier, on en avait un, d'ailleurs, qui était ici en studio pour nous parler des ravages que ça faisait, autant au niveau de la mémoire, au niveau cardio, il y avait un paquet de problématiques au niveau de la psychose. Il disait que c'était problématique, la surconsommation de cannabis.
Est-ce qu'on pourrait commencer par le légaliser, l'étudier et ensuite informer la population?
Mais on peut pas étudier avant de le légaliser?
Non. Non, okay. C'est impossible. Les chercheurs peuvent pas regrouper des personnes qui consomment, par exemple, du sativa, de l'indica, mesurer les effets, etc. Ce monde-là vont se ramasser en prison.
Le gouvernement, là, normalement, avant d'autoriser un médicament, ils vont le tester avant, pas après.
Non. Éric, là, je vais t'apprendre quelque chose. Il n'y a pas un seul psychotrope qui a été testé chez les êtres humains avant d'être mis sur le marché. Il a été testé sur les souris.
OK, il teste les souris. Mais là,
les souris, ben non.
Mais sauf
utilise les produits, puis on voit... écoute, un des médicaments des antipsychotiques les plus connus, le Seroquel. Écoute, on le connaissait tellement peu que lorsqu'on l'a mis sur le marché, à 100, 200, 300 milligrammes, il n'avait presque zéro effet antipsychotique dans le traitement de la schizophrénie. La dose était trop faible. Alors, à l'utiliser, on s'est rendu compte que ça marchait pas. Donc, il y avait un problème. Il y a des personnes qui ont monté les doses, et là, ils se sont aperçus à 600 et 800 mg par jour.
Là, ça avait un effet.
Ça avait un effet antipsychotique.
S'il n'y a pas eu d'étude, M. Mayhew, comment est-ce qu'on fait pour dire, ou on se base sur quoi pour dire que ça peut induire des psychoses toxiques et tout? On se base sur quel type d'information?
C'est controversé. Et écoute, ce qui est évident, Julie, c'est que le PCP et tous les psychostimulants, comme le speed, les amphétamines, ça provoque directement un accès de schizophrénie chez quelqu'un qui a la génétique pour faire la schizophrénie.
Fait que ça accélère quelque chose qui est déjà là.
Pardon? Oui.
Ça accélère ou accentue quelque chose qui est déjà existant.
Oui, tandis que le cannabis, c'est beaucoup moins évident. Ce qui est évident en clinique, j'en fais depuis 39 ans, je commence à connaître un peu le tabac. Pas le cannabis, parce que j'ai jamais goûté à ça, mais le tabac, je connais un peu plus. Et ce qui est évident en clinique, quelqu'un qui souffre de schizophrénie, qui prend des antipsychotiques et qui fume du cannabis, annule en grande partie l'effet de l'antipsychotique, donc rechute en psychose.
Donc ça part...
Est-ce que le cannabis provoque directement... Et il y a des individus qui débutent une schizophrénie et qui vont prendre du pot pour se soulager. C'est fréquent. Est-ce que c'est le pot qui a provoqué la schizophrénie? Ou si le pot a été utilisé
pour diminuer
l'anxiété dévastatrice de cette maladie horrible qu'est la schizophrénie?
Ça, on le sait pas.
Bon, alors... On va se garder une petite réserve pour un petit bout de temps, okay. Si vous êtes d'accord.
On est absolument d'accord. Le Doc, je veux vous faire remarquer quelque chose d'autre maintenant, parce que
oui. On
avait beaucoup de gens qui étaient aujourd'hui, nos journalistes, là, Jean-Simon Buis puis Jonathan Bernard, aujourd'hui, qui étaient devant des succursales de la Société québécoise du cannabis. Et ce qu'on remarque, c'est que 90-95% des gens qui sont dans les files à attendre pendant 3 heures, c'est des hommes.
Oui.
Pouvez-vous
m'expliquer
comment ça se fait que
les hommes potent puis les femmes prennent des pelules? Voyons.
Les hommes potes puis les femmes pelules.
Des pilules de
matin. Oui, 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 oui.
C'est
ben connu, oui, antidépresseurs anxiolytiques.
Vous l'avez constaté, vous, dans votre pratique, là.
Ben voyons, c'est tellement évident pour un clinicien.
C'est de l'ordre des évidences, ah bon. Fait que les hommes potes, les femmes pelules, m'en retenez,
oui.
Ça, là.
Ben oui, ben oui, ben oui, antidépresseurs et anxiolytiques.
Puis pourquoi les femmes prennent moins de potes? Parce qu'à cause de la façon de le consommer, ils n'aiment pas ça fumer ou quoi?
Non, parce qu'il y a plus d'adolescentes maintenant qui fument que d'adolescents. J'ai aucune idée.
Fait que
c'est une très bonne question.
Fait que les pushers pour femmes, c'est des médecins comme vous, puis les pushers pour hommes, ça va être la SQDC, c'est ça?
Ouais. Et Éric, c'est important que je vous mentionne quelque chose.
Allez-y.
Bon, il est connu. J'ai assisté à beaucoup de conférences... au psychiatre, la formation médicale continue au psychiatre, et on nous parle régulièrement des récepteurs cannabinoïdes dans le cerveau.
C'est quoi ça?
Cannabinoïdes. C'est près de cannabis?
OK.
Cannabinoïdes. On a des récepteurs dans le cerveau.
On a comme des barils qui reçoivent du cannabis dans notre cerveau, c'est ça?
Oui.
OK.
Ouais.
J'ai compris.
On a ce qu'il faut pour recevoir quelque chose du pot dans le cerveau.
OK.
Maintenant... Ce qu'on connaît, ce qui est clair, c'est qu'il y a des différences énormes entre les individus pour ce qui est de la réaction au cannabis. Ça, c'est connu.
OK.
On ne sait pas pourquoi. Demandez-moi pas pourquoi. On n'en a aucune idée.
On ne sait pas. Mais il y a une différence, ça, c'est clair.
Mais on a ce qu'il faut pour recevoir ce produit-là dans le cerveau.
Puis les hommes l'ont peut-être, leur baril de potes, il est peut-être plus gros pour recevoir plus de potes que le baril de la femme.
On n'est pas.
Mais c'est une possibilité.
C'est pour ça, là, il y a encore de la recherche à faire. On a beaucoup de connaissances à acquérir, autant sur le cerveau que sur le pote.
Est-ce que je peux conclure là-dessus, Dr Mailloux, que vous considérez que c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir faire des études? Est-ce que c'est là le point principal?
Définitivement. C'est ça. Okay. Et cesser d'agiter des épouvantails à moineaux.
Non, arrêter de faire peur au monde, dans le fond. Là.
Parce qu'il y en a... Donner de l'information juste et les citoyens adultes se comporteront à leur guise.
OK, ça, c'est bon. Mais Dr Mailloux, pendant que vous êtes avec nous, parce que malheureusement, on ne vous a pas assez souvent, je vais vous parler d'un autre sujet parce que ça a retenu l'attention au cours des dernières heures. La police de Lévis, hier, nous a appris qu'il y a plus qu'un cas sur 4 de violence conjugale où ils sont appelés, où c'est l'homme qui est la victime. Ça nous a beaucoup choqués, ça nous a beaucoup surpris. On ne pensait pas que c'était un nombre aussi important.
Oui, il y a eu un accroissement considérable.
Oui, c'est ce qu'on remarque.
Il y a eu un accroissement considérable de la violence chez les femmes, autant dans la fréquence, je crois, que dans la violence elle-même.
Ça s'explique comment, ça?
Pardon?
Ça s'explique comment?
Deux facteurs.
OK,
les hommes sont de moins en moins soumis aux femmes au Québec.
Hein?
Et l'autre facteur, c'est la poussée spectaculaire des amphétamines, consommation d'amphétamines chez les femmes.
Donc, c'est les pilules. Mais moins, les hommes sont de moins en moins soumis. C'est drôle, moi, le doc, j'observe de plus en plus le contraire. J'ai l'impression qu'on vit de plus en plus dans une société féministe, féminisée. J'appelle même mes collègues, les milléniaux, les colonisés du féminisme tellement je les trouve pas, je les trouve soumis aux femmes.
Dans les faits, il y en a plusieurs. Écoute, il y a de plus en plus d'hommes et de jeunes hommes qui échappent à l'hégémonie féminine.
Ils se rebellent un peu.
Il y a des femmes qui aiment pas ça.
OK, ils aiment pas que les hommes se rebellent contre le pouvoir de la femme. Parce que la femme veut pas, Doc Mayou, il faut quand même être honnête. Ils ont de plus en plus de pouvoir.
C'est l'obéissance.
Québec,
c'est le niveau d'obéissance masculine aux femmes est en diminution importante. Et ça rend certaines femmes folles, furieuses.
Ah oui, c'est pour ça qu'elles frappent. Elles frappent. Mais sauf que, comment vous expliquez ça? Parce qu'on a l'impression que les femmes sont de plus en plus scolarisées, ont de plus en plus le pouvoir économique au Québec. Comment ça se fait? Moi, j'ai pas l'impression que les hommes sont de moins en moins soumis. Une femme là, qui gagne deux fois le salaire de son mari peut vous dire que d'une façon ou d'une autre, l'homme, il y a une forme de soumission envers sa femme. Là.
Oh, ben regarde.
C'est elle qui prend les décisions. Bon,
Éric, je vais t'expliquer quelque chose.
Allez-y.
Bon. Un homme et une femme vivent ensemble.
Oui.
Et l'homme a mille et une façons de ne pas être tapis devant sa princesse.
OK.
Hein? Et souvent, il va sortir, il va avoir des fréquentations, il va poter, il va faire toutes sortes de choses.
Oui.
Qui va rendre la conjointe folle furieuse de cette désobéissance civile ou désobéissance conjugale?
Elle veut le garder sous son contrôle.
Ben, écoute. Et ça, le contrôle féminin, le contrôle conjugal féminin, s'est énormément effrité au Québec.
La germaine
à tel point que les colonnes du matriarcat tremblent actuellement.
Ah oui.
Mais quand même, pour être honnête aussi sur les statistiques qui ont été dévoilées hier à Lévis, c'est qu'on parlait aussi qu'il y a quand même beaucoup de cas que c'est homme à homme.
Oui, mais la majorité, l'écrasante majorité, c'est homme à femme. Là. C'était marginal, ça. Là.
Oui,
C'est pas le trois quarts. Ils disent que les hommes reçoivent trois fois plus, sont trois fois plus nombreux à avoir reçu des coups de pied, des coups de poing, des morsures, puis des coups avec un objet contendant que les femmes. 3,5 fois plus.
Ça, c'est Statistique Canada. Vous n'avez qu'à écouter. Hier, on a fait une émission là-dessus. Et je vous assure qu'il y a plus que les objets contondants. Là. Il y en a plusieurs que les couteaux volent, puis il y a eu des menaces de couteaux.
Mais comment vous expliquer quel conseil faut donner aux hommes? Parce que ce que la police disait
aussi... Continuez la désobéissance conjugale.
OK, non, ça, je suis d'accord avec vous. Mais sauf que qu'est-ce qu'ils font quand la femme se met à tapocher? Parce que là, ce qu'on remarque, puis la police de Lévis hier l'a dit, les hommes ne veulent pas porter plainte parce que c'est encore tabou, Doc Mayou, que vous le vouliez ou non. Un gars qui se fait taper dessus par sa femme, là, il ferme souvent sa gueule parce que sinon, il fait rire de lui. Parce qu'un gars battu par une femme, il a l'air d'un faiblard, il a l'air d'un mou. C'est anti-homme d'une certaine façon.
Regarde, un homme battu par une femme, c'est une chose. Un homme frappé par sa conjointe, ça en est une autre.
OK.
Bon, il y a quelques femmes qui peuvent être nettement plus fortes physiquement que leur conjoint. Elles peuvent le battre littéralement. Maintenant, frapper, menacer, garrocher des objets, ça, c'est autre chose. Le mordre, c'est autre chose, là. Okay. Alors, il y a toute une gradation.
Il y a une gradation. Soyons ça ne veut pas dire qu'il a mangé une volée, là.
Ben,
qu'il y a deux yeux au beurre noir et qu'il se ramasse à l'urgence. Non, non.
Soyons prudents.
Mais...
Et ce qui arrive aussi, ce qui fait partie de cette dynamique de violence de la part de beaucoup de femmes, c'est que j'ai eu certains cas de femmes qui se sont auto-infligées des coups pour se faire des bleus. Et lorsque l'homme les prend par les bras, c'est évident qu'il va y avoir des ecchymoses. Il va y avoir des bleus sur les bras. Est-ce que le type se défendait ou s'il l'attaquait? Dans bien des cas, la femme qui a attaqué la première, OK, qui a frappé la première, et le type essaie de l'immobiliser, ce qui est une très mauvaise idée.
C'est lui qui se ramasse avec les charges.
Il y a beaucoup de femmes qui vont porter plainte pour voie de fait contre leur conjoint et elles ont des bleus sur les bras.
Mais c'est parce que c'est sûr que le système de justice, parce qu'on a comme un préjugé favorable vers la femme parce qu'on se dit que physiquement elle est plus faible. Fait que le système de justice va plus prendre parti pour le plus faible dans un cas comme ça.
Ben, avec raison. Parce que y a des deux côtés, il y a des menteurs. Alors, hommes et femmes mentent comme ils respirent. c'est équitable.
Fait que je retiens deux choses de votre intervention, le doc, c'est que les hommes sont potes, les femmes sont pelules, puis hommes et femmes tendent à mentir. Merci beaucoup, Mayou.
Sanan?
C'était instructif de jaser
oui,
cet après-midi.
La seule question que j'ai, c'est combien de fois par jour mentez-vous?
Ah, ça, c'est peut-être autant qu'on fume du pot, on le sait pas. Merci beaucoup, Doc Mayou, de nous avoir jasé. C'était un plaisir.
Bye.